Sur les rives toujours inquiètes de l'Ob et de l'Astura, Ovada, petite cité du Piémont, étend allègrement ses maisons au doux soleil du matin. Un pèlerin marche dans les rues étroites. Il passe la place du village avec son clocher élancé. Une autre rue, puis les pas se dirigent, ferme vers une vieille maison. Là, une pierre rappelle un nom. À l'intérieur, au milieu des objets conservés avec un souhait amoureux, il se sent transporté vers une époque lointaine. « 1694. 3 janvier. Lucas Daneo et son épouse, Anne-Marie Massari, remercient Dieu. Leur union s'est enrichie d'un fils. Dans leur prière d'action de grâce vibre une gratitude profonde parce que Dieu avait semblé vouloir bénir cet enfant tout particulièrement. Les premiers vagissements du nouveau-né se sont accompagnés d'un rayon de lumière qui a mystérieusement illuminé la chambre. L'enfant baptisé Paul-François grandira serein et robuste. Il ne se passait pas un jour sans que la mère l'éduquât à aimer Dieu, lui racontant les belles histoires de la vie des saints ou des miracles accomplis par la Vierge ou bien la douloureuse passion de Jésus au calvaire. L'enfant écoutait, ému, ses yeux pleins de larmes étaient fixés sur ceux de sa mère. Mais ses yeux innocents devaient aussi éprouver la joie de se fixer sur l'enfant Jésus, qui lui apparut dans un réduit où, tout petit, il s'était habitué à prier et à faire des pénitences. Paul, heureux, révèle ce secret à son frère Jean-Baptiste, qui le suit dans sa voie de prière et de bonté. Pendant que d'autres frères venaient augmenter la joie de la maisonnée, Saint Paul, selon la coutume de l'époque, fait sa première communion. Il a 12 ans. Ce jour-là, Jésus allumera dans son cœur une flamme d'amour divin qui, les années passant, ira grandissant de plus en plus. La vie du jeune Saint Paul de la Croix est déjà une suite continuelle de sacrifices faits et supportés au nom de Jésus. Peu d'années après, les Turcs menaçaient Venise. Le danger était grand pour l'Église et pour les chrétiens. Saint Paul se déclara prêt à courir à leur défense et s'embarqua comme volontaire. Mais Dieu le destine à autre chose. Priant un jour dans une église devant le Saint-Sacrement, il entend une voix mystérieuse qui lui dit « Paul, retourne chez toi. Une autre armée t'attend. » Ému et bouleversé, il demande son retour au pays. Mais la voix de Dieu tardait à révéler ses desseins, alors qu'autour de lui, les tentations du monde redoublaient. Son oncle prêtre, qui avait voulu le marier avec une jeune fille de bonne famille sans résultat, mourut, le faisant héritier de sa fortune. Saint Paul renonce à tout, ne gardant pour lui qu'un bréviaire. Puis, heureux d'avoir résisté à la tentation de la richesse, il s'exclame Mon Seigneur crucifié, c'est vous seul et non un autre que je veux. Il attend dans la prière avec confiance la parole révélatrice de Dieu. Été 1720, pendant que les épis dorés de blé se chauffaient au soleil, Notre-Dame lui apparut, vêtue d'un habit de deuil. Sur sa poitrine est un signe en forme de cœur, surmonté d'une croix blanche, avec à l'intérieur le nom sacré de Jésus. Saint Paul de la Croix, en extase, entend la Vierge murmurer « Vois, mon fils, comme je suis habillé de deuil. C'est à cause de la passion de mon fils bien-aimé Jésus-Christ. C'est ainsi que tu auras à t'habiller et à fonder une congrégation où il se fasse un deuil continuel pour la mort de mon très cher fils. Maintenant, Saint Paul sait ce que Dieu veut de lui. Après avoir écrit à l'évêque d'Alexandrie, Monseigneur Gattinara, et après avoir obtenu l'approbation, il dit adieu à sa famille. Malgré son grand amour pour les siens, la voix de Dieu est si forte en lui qu'elle ne le fait même pas hésiter un instant. Ses parents le comprennent et le bénissent. Après l'avoir examiné, l'évêque donne à Saint Paul l'habit qu'il prend tremblant. Il le portera toute sa vie. Aux premières heures du 7 novembre 1720, la cérémonie commence. Elle est émouvante, elle est simple. Il y a peu de monde en vérité à ce baptême qui va transformer Paul d'Anneo en un grand serviteur de Dieu, Saint Paul de la Croix. Dans les doux moments qui suivront sa prise d'habit, Saint Paul de la Croix pressent déjà quelle sera sa vie, imaginant et voyant autour de lui d'autres frères qui revêtiront le même habit que lui et porteront dans leur cœur le même abandon complet au Christ crucifié. La cérémonie achevée, Saint Paul de la Croix quitte Alexandrie et se dirige vers Castellazzo. Là, il se retire dans une maisonnette près de l'église Saint-Charles et passe 40 jours dans la prière et dans la pénitence. Complètement isolé du monde, il écrira du 2 au 7 décembre la règle de la congrégation qui aura pour but de conduire à l'amour de Jésus crucifié. La main se fera légère sur les pages blanches, sans rature, sans hésitation, à tel point qu'il dira lui-même « J'écrivais vite comme si quelqu'un était là à me dicter. Je sentais chaque parole me naître du cœur. » Quarante jours de vie aussi dure auraient dû épuiser un organisme plus robuste que le sien. Mais Dieu veillait. Aux extases et aux visions se mêlent les jeûnes et les pénitences. Une nuit, dans l'obscurité d'une église, Saint Paul de la Croix veille devant le tabernacle. L'air glacé de l'hiver lui mord douloureusement la chair, mais voici que les ténèbres se dissipent et qu'apparaît à ses yeux une céleste vision du paradis. Le froid et la solitude disparaissent cette vue. Un jour, des enfants renversent un banc sur les pieds du saint. Le sang coule abondamment des blessures pendant que les enfants s'enfuient en courant. Saint Paul de la Croix se tait, il refusera tout soin, disant « Ce sont des roses en comparaison des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. » Maintenant, sa règle a obtenu l'approbation de l'évêque qui lui ordonne de prêcher et d'enseigner le catéchisme aux enfants. Ceint d'une couronne d'épines, portant une croix sur ses épaules, le nouveau catéchiste parcourt les rues et les places de la ville, invitant les enfants à venir à l'église. L'enseignement du saint est tel que même les parents curieux viennent l'écouter et en tirent de nombreux fruits. L'évêque, apprenant cela, lui ordonne de prêcher aussi aux adultes. La foule affluera et la description de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ suscitera beaucoup de larmes et de sincères repentirs. Mais si les gens de son pays lui prêtaient facilement attention, il n'en était pas de même à Rome, chez les gardes pontificaux du palais épiscopal. L'habit sombre, le visage pâle et émacié, les yeux baissés de saint Paul de la Croix ne lui attiraient pas leur sympathie, loin de là. La première fois qu'il se rendit dans la cité pour obtenir l'approbation du pape, il se fit chasser par les gardes sans même pouvoir dire un mot. Combien il souffrit, notre saint, avant que sa règle fût approuvée. Il était renvoyé des uns chez les autres. À la fin, à force de marcher sur la neige et la glace et les chemins, ses pieds sont tout endoloris et laissent des traces de sang. Mais nullement découragé par les difficultés, saint Paul de la Croix délaisse Rome et se retire sur le mont Argentar pour prier, car ce lieu lui fut indiqué par la Vierge. Il amène avec lui son frère Jean-Baptiste qui le suivra partout. Puis ils se rendent de nouveau à Rome afin d'exercer la charité dans un hôpital de la cité. Peu de malades peuvent dire avoir vu deux infirmiers aussi zélés et aussi prévenants. Quand les médicaments ne pouvaient plus rien pour un malade, saint Paul de la Croix les guérissait d'un simple signe de croix. Tous les malades aimaient nos deux frères et cet amour les disposait à entendre prêcher, à se confesser et à prier. Le cardinal Corradini, voyant cela, pensa que de tels êtres devraient être ordonnés prêtres afin de sauver le plus d'âmes possible. Et c'est ainsi que notre pauvre ermite, hier chassé de Rome comme un brigand, se retrouve aujourd'hui prêtre de notre Seigneur Jésus-Christ, ordonné par les mains du souverain pontife lui-même. Il célébrera sa première messe à l'hôpital où il était infirmier. Quelle émotion pour saint Paul de la Croix et pour son frère lorsqu'il tient entre ses mains l'hostie sainte. La Vierge Marie lui apparaît de nouveau. Mon fils bien-aimé, retournez au mont que je vous ai indiqué. L'amour de saint Paul de la Croix pour Notre-Dame des Douleurs n'avait de comparable que son amour pour Jésus crucifié. La croix, les instruments de la passion du Sauveur et la douloureuse montée au calvaire le faisaient pleurer de douleur et d'infinie reconnaissance. Quand il prêchait, l'auditoire ne pouvait s'empêcher d'éclater en sanglots, en entendant, plein de force et de reconnaissance, s'exclamer « Un Dieu fouetté pour moi, un Dieu crucifié pour moi, un Dieu mort pour moi. » Jésus veut un jour le remercier. Un vendredi saint, il lui apparaît et lui grave dans le cœur les instruments de la passion. Cela signifiait qu'il en éprouvait les mêmes sentiments et qu'il avait le même amour que notre Seigneur pour nous. Les deux nouveaux prêtres, laissant Rome, retournent au mont Argentaro. Ils veulent se retirer dans un lieu solitaire pour prier et faire pénitence. Mais les prêtres des environs, apprenant leur arrivée, vont les chercher pour qu'ils prêchent et convertissent un peu leur paroisse, qui, disent-ils, en a bien besoin. Un jour qu'il prêchait avec une particulière ferveur dans une église, il sent que quelqu'un dans l'auditoire ne veut pas se convertir. Il s'écrie : Mon frère, vous ne voulez pas vous convertir ? Eh bien, je vais aller vers vous avec le crucifix. Et les paroissiens médusés voient le saint voler par-dessus leur tête jusqu'à l'incrédule, lui montrer le crucifix, puis retourner en chair. Dieu poussait de plus en plus saint Paul de la Croix à se consacrer aux missions dans les paroisses, afin de sauver le plus d'âmes possible. Et le Seigneur le suit pas à pas, renouvelant les miracles. Alors qu'il prêchait dans une église à Orbetello, on vient lui dire qu'un enfant qui s'était penché à un balcon par curiosité avait fait une chute et était mort sur le coup. Le saint accourt, prend l'enfant des bras de sa mère et lui souffle au visage. Puis, avec grande délicatesse, il rend l'enfant ressuscité à sa mère. Sa réputation de sainteté attire les premiers disciples. Un soir, un prêtre zélé vient le rejoindre sur le mont Argentaro, sa retraite habituelle. Il s'appelle Fulgence Pastorelli. Sa bonté ne pourra qu'être salutaire à la nouvelle congrégation. Saint Paul de la Croix est heureux de cette recrue. Pendant que sur un feu, l'eau bout pour le dîner, nos deux religieux parlent de Dieu. Le temps passe. La marmite fait plus que bouillir. À la fin, se renverse. Adieu dîner. Mais personne n'y fait attention car on parle du premier monastère de la congrégation qui va bientôt s'élever ici même. Le jour de l'inauguration, les autorités religieuses et civiles sont là. De nombreux soldats sont venus pour témoigner de la vénération qu'ils ont pour saint Paul de la Croix. Pendant que la procession passe sur le chemin ensoleillé, ils se souviennent du courage du saint sur le champ de bataille. Comment il allait d'un endroit à l'autre, ignorant les dangers, seulement préoccupé du souci de confesser, de bénir, de consoler. Il était si absorbé par son devoir qu'il ignorait même les canonnades toutes proches. Et souvent, les capitaines des deux armées rivales étaient obligés de cesser le tir afin de lui conserver la vie. Pour sauver une seule âme, saint Paul ne refusait aucune pénitence, aucun sacrifice. Un jour, il fut surpris par des chasseurs à se rouler dans un buisson d'épines. Se jeter dans l'eau glacée ou se rouler dans un buisson d'épines, c'était des souffrances qu'il offrait volontiers à Dieu pour sauver ne fût-ce qu'une seule âme, l'arracher au péché et la rendre repentante à son Sauveur. Les soldats se souviennent encore. Il voulut un jour non seulement sauver l'âme, mais la vie d'un de leurs compagnons, condamné à mort. Il va voir le capitaine et il l'implore de faire grâce. L'officier est inébranlable. Il lui dit : Faites-le pour la Vierge Marie. Non, père, je ne peux. Eh bien, si vous ne le pouvez, Notre-Dame le pourra, elle. Ceci dit, il frappa le mur. Tout l'édifice trembla sur ses bases comme s'il y avait eu un violent tremblement de terre. L'officier épouvanté libère vite le prisonnier. Ce n'était pas le premier soldat qui, par crainte ou par amour, contentait notre saint. Un jour, les Espagnols, après avoir livré bataille, veulent mettre la ville d'Orbetello à feu et à sang. Saint Paul de la Croix, agenouillé devant leur général, les supplie d'éviter ce geste barbare. La cité se rendit sans coup férir, emportant même notre saint en triomphe, pendant que le général, après tout, content d'avoir évité un massacre, le félicitait chaleureusement. Les frères, maintenant, affluent de plus en plus. Le pape a approuvé en 1741 la règle de la congrégation pour remercier Dieu et pour se préparer convenablement à la profession religieuse. Saint Paul de la Croix donne une retraite des exercices spirituels. À la fin, tous renouvellent les quatre vœux. Pauvreté, chasteté, obéissance et le vœu de faire grandir dans les fidèles la dévotion à la passion de notre Seigneur. La règle sévère, les pénitences continuelles, les sacrifices auxquels sont soumis les pères passionnistes font beaucoup de vide parmi les nouveaux arrivés. Mais ceux qui restent donnent des fruits nombreux et sains. Élevés à l'école d'un saint, ils feront de la congrégation une des plus belles perles dans le cœur de l'Église. La lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, entre les passionnistes et le péché, n'est pas toujours limitée à la seule nature spirituelle. Et si les confrères de Saint Paul de la Croix réussissent à arracher une âme à l'enfer, le démon en personne revenait quelquefois reprendre sa victime. Ainsi, un jour qu'un soldat, jusqu'alors grand pécheur, était en train de se confesser, le démon, se sentant trompé, ne trouve pas d'autre solution que d'essayer de l'arracher au confessionnal. Le soldat, en criant d'épouvante, s'agrippe au meuble. Confessionnal, confesseur et confessé vont, si cela continue, être traîné jusqu'en dehors de l'église. Saint Paul de la Croix accourt, jette un chapelet autour du cou du pénitent et le diable prend la fuite. En parcourant la vie de Saint Paul de la Croix, on a de nombreuses occasions d'émerveillement. On se demande comment, par exemple, un homme si pénitent, si chaste et si pur, visité de Dieu par des visions séraphiques, puisse être appelé chapelain des brigands. Personne comme lui ne savait parler au cœur de ces hommes que l'apparence et la réputation désignaient comme des loups. Féroce, bien armé, habitué aux fatigues, il parcourait les campagnes sur de rapides chevaux, pillant et volant sans pitié. Il n'avait pas de maison, il vivait dans les bois et les grottes. Mais si Saint Paul de la Croix ne connaissait pas leur violence, il connaissait leur âme. Il connaissait leur solitude et leur souffrance. Il savait trouver la parole propre à allumer au fond de leur âme une flamme et la ramener à la pénitence et à Dieu. Les brigands avaient pour Saint Paul une sincère et profonde vénération. Non seulement ils l'escortaient, mais ils allaient au-devant de lui et étendaient leur manteau à terre sur son passage, afin que ses pieds nus ne souffrent point des aspérités du chemin. Les vrais brigands, pour Saint Paul, c'étaient ces démons. Plusieurs fois, ils apparaissaient dans les campagnes, le jetant à terre et le frappant sauvagement, le laissant plus mort que vif. Seul, il n'aurait jamais pu se relever. Pendant que l'air encore empesté du souffle des démons se purifiait peu à peu, les anges de Dieu descendaient du ciel amoureusement et le réconfortaient. Ils l'aidaient à se relever et le soutenaient en guidant ses premiers pas encore chancelants. Détaché des choses d'ici-bas, Saint Paul de la Croix ne donnait pas trop d'importance à ce que le pain pouvait manquer d'un jour à l'autre dans beaucoup de monastères. Un jour qu'il était au monastère Saint-Ange, près de Vétral, les religieux lui vinrent dire que le garde-manger était vide. « Ayez foi, répondit-il, ayez foi et priez Dieu, il vous aidera, mes frères. » Dehors, le vent sifflait dans les bois du mont Fogliano. La neige tombait depuis plusieurs jours, rendant les routes impraticables. C'était impossible de s'imaginer qu'une personne charitable puisse venir leur porter quelque secours par un temps pareil. Et pourtant, disait notre saint, « Ayez foi et Dieu vous aidera, mes frères. » On frappe à la porte. Nos religieux vont ouvrir, pensant quelques voyageurs égarés, en quête d'un abri. Quelle n'est pas leur surprise de trouver un homme avec deux mules chargées de blé et de vin. Fils de la Providence, Saint Paul de la Croix, voyez dans la charité envers le prochain le signe le plus haut de l'amour chrétien. Quand un pauvre frappait à sa porte, il le servait à genoux. Un jour, au monastère, un pauvre se présente. Il demande l'aumône d'un morceau de pain. Saint Paul le lui porte, mais l'autre, souriant étrangement, lui dit « Vous me connaissez, Paul ?»« Oui, répond le saint. Vous représentez Jésus sur la terre comme tous les pauvres. Et si j'étais Jésus lui-même, Paul ?» Saint Paul, confus, baisse les yeux. Quand il les relève, il aperçoit, à côté du pauvre, notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je fais comme prière et comme pénitence n'est rien à côté de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il fallait toujours que notre saint trouve des sacrifices plus douloureux. Un jour qu'il était seul dans sa cellule, il prit un poinçon rougi au feu et les yeux fixés sur l'image du Christ sanglant, il inscrivit son nom sur sa poitrine. La douleur était atroce, mais lui continuait en murmurant plus du cœur que des lèvres. Jésus, je vous aime. Jésus, je vous aime. Et souvent, Jésus le réconfortera de sa présence. Car avec lui, et seulement avec lui, Saint Paul de la Croix se sentait dans la paix. Dans les regards douloureux du Fils de Dieu, il apercevait le chemin qui conduit au ciel. La congrégation fondée par lui se répand de plus en plus. Dans une vision prophétique, il aperçoit ses fils rayonnants en partance pour l'Angleterre. Durant un de ses fréquents voyages à Rome, il rencontre un paysan qui blasphème d'une façon horrible. Saint Paul le prie de s'arrêter. Pour toute réponse, l'autre empoigne son arquebuse et murmure entre ses dents « Tu te files pas ton chemin, voilà ce qui t'attend !» Saint Paul, tranquille, réplique « Tu n'as pas le respect pour ton Créateur, tes bœufs l'auront certainement. » Il sort un crucifix et sous les yeux étonnés du paysan, les bœufs plient le genou. Le crucifix, comme il nous l'avoue lui-même, l'aida dans plus d'une mission, mais c'était surtout sa description de la passion du Sauveur qui secouait les gens les plus insensibles, car elle était faite avec beaucoup d'amour et de force. Durant sa dernière mission à Rome, la foule l'écoutait sur la place de l'église, car l'édifice ne pouvait plus contenir tant de monde. Un gentilhomme de l'endroit, admiratif, l'invita à souper. Comme il se promenait dans le jardin, après le repas, Saint Paul de la Croix s'arrête soudain et fixe d'un regard triste et sévère les yeux de celui qu'il a en face lui. Là-dessous, mon frère, dit-il, il y a une victime. Son sang crie vengeance. Il vous faut faire pénitence. De tout temps, l'histoire de l'Église a enregistré autour de ses plus belles œuvres l'aveugle persécution des hommes. Même pour saint Paul de la Croix, cette heure amère sonnera. Et si les démons le persécutaient avec rage, maintenant les hommes mêmes le persécutaient de leur langue bien plus terrible et cruelle. Toutes sortes d'accusations sont lancées contre la congrégation des passionnistes qui menacent de disparaître d'un jour à l'autre. Saint Paul de la Croix, accusé d'hérésie, comparé à Calvin et à Luther, se sent encore plus proche de son divin maître calomnié. Il incline la tête, mais quand ses ennemis vont donner leur dernier assaut, il trouve dressé devant eux tout le peuple d'Italie qui prend la défense du saint, tous les prêtres et évêques, les miraculés, les hommes ramenés sur le droit chemin par les passionnistes, les soldats qui l'ont connu sur le champ de bataille, tous sont là. Et saint Paul de la Croix, rassuré, reprend ses missions, ses conversions, ses miracles. Égard où les pécheurs sont nombreux et peu propres à se laisser convertir. Mais si la voix du saint ne peut rien faire, ils ne peuvent résister à un crucifix qui soudain se met à saigner. Orbetello, une pauvre veuve allait mourir en laissant sa petite fille seule dans un monde cruel et indifférent. Si le père Paul était là, pensa la vieille, mais le père est loin qui prêche. Cela ne fait rien, il lui apparaît et l'a guéri. Saint Paul de la Croix était plein de sérénité. Maintenant, il savait sa mort toute proche. Une dernière fois, il voulut voir tous les religieux de ses monastères. On le transporte. Les gens accourent sur son chemin. Les autorités viennent à sa rencontre. Les mères veulent qu'ils bénissent une dernière fois leurs enfants. Mais la gloire de ce monde n'attirait pas saint Paul de la Croix. Son bonheur, c'était de reposer en notre Seigneur Jésus-Christ, qui un jour détachera sa main de la croix pour embrasser le saint. Ce geste de Jésus se perpétuera dans ses représentants sur la terre. Les papes qui comblèrent saint Paul de la Croix de dons et de faveurs. Ainsi, quand saint Paul ne pouvait visiter les souverains pontifes, ceux-ci ne daignaient pas d'aller jusqu'à lui. Clément XIV et Pie VI montèrent plusieurs fois au couvent du Mont Celio pour parler avec notre missionnaire. Clément XIV aimait l'entendre parler de Dieu. Puis à genoux, il lui demandait sa bénédiction. Malgré sa faiblesse et son âge avancé, saint Paul de la Croix ne renonçait pas à accomplir de nombreuses pénitences. Ainsi, celle du carême de Notre-Dame. Elle consistait à se priver du fruit durant 40 jours, avant l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, date du 15 août. Et son médecin avait beau insister, « Je ne peux pas, » répondait-il en souriant, « ces fruits, je les ai donnés à une grande dame. » La même grande dame qui, un jour sur le mont Argentaro, l'avait mystiquement fiancée à l'époux divin. Le soir du 20 septembre 1760, Saint Paul de la Croix reçoit dans la congrégation celui qui sera un de ses plus illustres fils, Vincent Marie Strambi. Comme il écrivait bien, les supérieurs le chargeront de composer la première vie du saint, que par dévotion, il écrira à genoux. Le serviteur de Dieu se sentait désormais proche du grand jour. Sur son lit de mort, après avoir fait son testament spirituel, il veut recommander à la protection de la Vierge Marie sa congrégation. À 1h de l'après-midi, le 18 octobre 1775, il sent un grand froid lui envahir le corps. L'agonie durera 3h30. Assisté par les membres de sa congrégation. À 4h30, le père Djamara lui met au cou, selon son désir de mourir, dans la cendre et le cilice, une corde. Puis soudain, ce fut la fin. Il eut juste le temps de murmurer « Pater venit ora » qui veut dire « Père, l'heure vient ». Puis il rendit dans la paix son âme à Dieu, comme notre Seigneur Jésus-Christ, dépouillé au calvaire. Le 29 juin 1887, Saint Paul de la Croix sera déclaré saint. Ses disciples iront se multipliant, portant tout lieu l'amour de la croix, signe du chrétien, signe du rachat, signe d'espérance, réalisant pleinement les paroles de l'apôtre Saint Paul, « Nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi » qui veut dire « Notre seule gloire est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ ».
Maximilien Kolb est né en Pologne le 8 janvier 1894. Il s'appelle à sa naissance Raymond. Très tôt, sa mère, fervente chrétienne, lui parle de religion. Tu vois, mon fils, nous avons deux mères, l'une au ciel, l'autre sur la terre. L'une guide nos pas dans les premiers moments de notre vie. Elle nous protège de son amour et nous réchauffe de son affection. L'autre, c'est notre petite maman du ciel. Elle guide notre âme vers Dieu. Elle raffermit notre volonté. Elle réconforte notre foi vacillante et offre nos pauvres prières à son Fils Jésus-Christ. Le jeune Raymond aimait d'un même amour sa petite maman du ciel et sa mère terrestre, qui s'appelait aussi Marie. Un jour, la Vierge lui apparut en songe entourée de lumière, avec dans ses mains deux couronnes de roses, l'une blanche et l'autre rouge. La Vierge lui dit, « Ces couronnes sont pour toi. Les roses blanches signifient la pureté, les roses rouges le martyre. » L'enfant les prit toutes les deux. Raymond entra après cela chez les frères mineurs conventuels et prit à sa profession religieuse le nom de Maximilien. Il fut ordonné prêtre en avril 1918. Et il se donna sans relâche à l'extension du règne de Marie, diffusant des revues et des journaux, parlant de notre Mère des cieux, fondant même la milice de l'Immaculée. Mais voici la guerre qui s'abat sur la Pologne. Le soir du 17 février 1941, quelques soldats de la terrible Gestapo frappent à la porte du couvent. Vous êtes le père Maximilien Kolb?
Oui, mon frère.
Je vous déclare en état d'arrestation. Suivez-moi.
Le père ne retournera plus au couvent.
Conduit en prison, il va connaître la faim et les humiliations. Son habit religieux l'exposera aux moqueries et aux insultes de la soldatesque, comme Jésus durant sa passion. Puis on le déporte dans un camp de concentration. Le terrible camp d'Osviesim. Là sont enfermés des hommes affamés, contraints à un travail qui les tue à petit feu. Pour eux, un seul salut, une seule idée, la fuite. Ce jour-là, un homme, Pierre, a réussi à fuir. Encore un petit effort et puis ce sera le bois, la campagne, la liberté. Pierre a réussi à fuir, mais les autres prisonniers sont consternés. Ils savent trop ce qu'ils risquent. Le chef du camp leur a dit qu'en représailles, pour tout prisonnier échappé, 20 prisonniers seront condamnés à mourir de faim dans un cachot qu'on appelle le bunker de la faim. Le chef, qu'on appelle le Lagerführer, prend la parole. Un prisonnier du bloc 14 s'est échappé. Il n'a pas été retrouvé. Vous connaissez le tarif. 20 d'entre vous doivent mourir dans le bunker de la faim. Quels seront les 20 condamnés? Une lourde angoisse pèse sur le camp. Chacun pense à ses parents, sa femme, ses enfants, son pays, son clocher. Le chef du camp les a alignés contre une baraque de bois et les passe en revue. Je vais vous apprendre ce que c'est que de désobéir à mes ordres. Caporal Frisch, amenez-moi les noms des prisonniers. bien la guerre fureur. Vous allez voir, chien de polonais, quand vous serez tenaillé par la soif la plus atroce et la faim, sans personne pour entendre vos cris. Et commence le sordide choix. On entend celui-là, cet autre. Allez, dépêchez-vous. Puis c'est le silence glacial. Au bout d'un moment, lourde angoisse, le Lagerfureur s'arrête. Toi aussi, toi aussi. Combien cela fait-il, caporal Fritz?
19.
Eh bien, allons. Il en manque un. Toi, le dernier prisonnier, désigné par le chef du camp, est marié et père de deux enfants. Ma pauvre épouse, mes pauvres petits. La cohorte des prisonniers commence à se diriger vers le bunker, abattue, brisée de douleur. Mais du groupe des prisonniers reste un homme qui se détache et avance maintenant vers le chef du camp. Le Lagerfureur est furieux. Chien de polonais qui t'a permis de sortir des rangs. Le prisonnier, qui n'était autre que le père Kolb, répond. Excusez-moi, Lagerfureur. Je voudrais prendre la place d'un des condamnés. Quoi, mourir à la place d'un des condamnés? Le silence se fit. Le chef du camp regarde stupéfait le visage de celui qui vient de parler. Une rumeur parcourt la masse des prisonniers. Je suis vieux et malade, la guerre fureur. Et ma vie ne sert plus à rien. Le chef lui demande à la place de qui il veut mourir. De celui que vous avez choisi en dernier. Mais qui êtes-vous?
Je suis prêtre catholique.
Très bien, caporal, prenez note. Cet individu veut mourir à la place du numéro 20. Allez, avancez. Le caporal indifférent barre un numéro de la liste noire et écrit à la place 16670, le numéro du père Kolb. Tout est au point maintenant. Et dans le camp, tout le monde était saisi de stupeur. C'était bien la première fois qu'un prisonnier donnait sa vie pour un de ses camarades. Pour la première fois dans le royaume de la haine, on sent le passage de la grâce divine. Le ciel dans le crépuscule était rouge. Rouge comme les roses lointaines que le petit Raymond avait reçues des mains de la Vierge Marie. Allez, dedans, tu vas devenir sec comme un roseau. Par une petite ouverture, les soldats contrôlent la lente progression de l'agonie des condamnés. Mais quelle n'est pas leur stupeur de constater que cette fois, personne ne crie, personne ne hurle comme les autres fois. Mais tous prient à mi-voix et entonnent les jolis cantiques de leur enfance. Ma petite maman du ciel, dit le père Kolb en un dernier sursaut. Immaculée, combien de temps me reste-t-il avant de vous voir? Tous mes compagnons sont morts. Je les ai vus mourir un à un. Je les ai vus recevoir l'absolution. Je les ai vus prier. Et surtout,
pardonner à leurs bourreaux. Quelle grande grâce vous m'avez faite, petite maman du ciel. Quelle grande grâce. Les bourreaux sont rentrés avec une piqûre d'acide phénique qui achèvera leur victime, le père. Dans quelques instants, ses tourments seront finis. Mais en un dernier élan, le père Kolb a le temps de demander à ses bourreaux quelle journée. On était à quelques heures du 15 août, c'est-à-dire en la vigile de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Tu vois, mon fils, nous avons deux mères, l'une au ciel, l'autre sur la terre. L'une guide nos pas dans les premiers moments de notre vie. Elle nous protège de son amour et nous réchauffe de son affection. L'autre, c'est notre petite maman du ciel. Elle guide notre âme vers Dieu. Et l'Immaculée, petite maman du ciel, comme l'appelait le père Kolb, descend dans l'horrible bunker pour conduire au ciel l'âme de son fils, Maximilien. Nous avons deux mères, et si le corps du père Kolb a fini dans un four crématoire, son âme limpide qui n'a jamais été souillée continue à vivre éternellement auprès de la mère du ciel. Le petit Martin de Porres était mulâtre, fils d'un blanc et d'une noire. Dans les jeux, déjà tout jeune, ses camarades le lui faisaient sentir. « Va-t'en de là, sale noir !» Et le petit Martin se consolait à l'idée que si lui était noir, son ange gardien devait être blanc. Pauvre Martin. Il allait se consoler près de son père qui lui rappelait que ce qui compte n'est pas la couleur de la peau, mais la beauté de l'âme en état de grâce, toute pure et transparente. Sa mère souffrait de voir son fils souffrir, mais elle offrait à Dieu ses épreuves. Martin, néanmoins, sentait grandir en lui un profond amour pour les pauvres gens, les ignorer, les mépriser. Bien souvent, il leur donnait les fruits qu'il avait achetés au marché. Quand ils ne pouvaient subvenir à leurs besoins, Dieu l'aidait largement à trouver du nécessaire. Ainsi, un jour, Martin planta un citronnier dans le jardin pour les pauvres. Le lendemain, il le trouva déjà couvert de beaux fruits
à la stupéfaction de tous. Il apprit bientôt le métier de coiffeur. Sa gentillesse était telle qu'on venait de toute la ville se faire couper les cheveux chez le brave coiffeur Martin. Un jour, on découvrit Martin en extase, soulevé de terre, auréolé de lumière, qui disait « Jésus, je vous aime, Jésus, je vous aime. » Mais Martin comprend que le métier de coiffeur ne le rendra pas heureux. « Ma mère, je crois que mon métier n'est pas d'être coiffeur, mais je voudrais entrer dans un couvent pour me consacrer plus entièrement à Dieu. » Ainsi, Martin, à 15 ans, laisse derrière lui tout son petit monde, père, mère, sœur, amis, et même ses pauvres, pour franchir le seuil du couvent des Dominicains du Rosaire. Martin n'est pas très élevé en études. Eh bien, soit. On lui donne un balai. Il balayera la chapelle. Martin adresse à Jésus cette prière. Jésus, on m'a donné le balai. Eh bien, je balayerai pour votre amour. Et vous verrez comme je balayerai bien, Jésus. Je veux que votre maison soit toujours propre et resplendissante comme un balai. Aidez-moi à vous aimer tout en balayant. Voici Martin qui a revêtu l'habit religieux. Mon Dieu, chaque matin en revêtant cet habit, je vous rendrai grâce pour vos bontés à mon égard. Mais survient le père de Martin. Gentilhomme est attristé de voir son fils manier le balai. Comment, père provincial, mon fils avec un balai dans les mains? Mais savez-vous qui nous sommes? Je suis Don Jean de Porès, gouverneur de Panama. Mais son fils l'interrompt. Pardon, papa, mais le balai est pour moi plus beau qu'une couronne, parce que c'est le balai de la maison du bon Dieu. Le père comprend alors la magnifique humilité de son fils Martin, qui continuera à être le dernier dans la maison de Dieu. Et toute la journée, avec son balai, le long des interminables couloirs du couvent, Martin vit heureux. C'est si facile, Seigneur, de balayer lorsqu'on pense à vous. Quand les couloirs étaient balayés, il s'occupait de l'infirmerie et il soignait les frères malades avec tout son cœur et une médecine parfaite, la charité. Il soignait aussi des mendiants de la ville qui venaient là attirés par son mystérieux sourire et sa bonté. Ce n'est pas moi, frère mendiant, qui guérit, c'est Jésus. Moi, je ne suis qu'un stupide petit frère. La ville commençait à parler de lui, d'autant plus qu'on lui attribuait des guérisons miraculeuses. Ah, c'est vous, frère Martin. Vous en avez mis du temps à venir. Je suis malade, très malade. Ah, lâche, vous m'abandonnez. Mulâtre, brigand, aidez-moi à me lever. Le bon frère répond à cela. Pardonnez-moi, mon frère, vous avez raison. Je suis un bon à rien. Et de ses mains, au service de Dieu, il rend la santé au vieux frère. À partir de ce moment, à la grande confusion de Martin lui-même, Dieu ne cesse plus d'opérer des miracles par l'intermédiaire de ses grosses mains.
Son panier se remplit mystérieusement quand il doit pourvoir aux nécessités des pauvres. Un jour, on l'interpelle. « Frère, guérissez mon fils. » Il répond, « Par charité, ne parlez pas ainsi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. C'est le Seigneur qui est bon. C'est lui qui nous aide si nous le prions. » La nuit, quand tout le monde dort, Martin descend dans la petite chapelle du couvent. Il se prosterne devant l'autel de Dieu et prie. Puis il se rend à la salle du chapitre et il se flagelle jusqu'au sang devant le crucifix. Acceptez ces petites douleurs, Jésus. Unissez-les aux souffrances de votre passion pour le salut de mon âme et la conversion des pécheurs. Mon frère Jean, n'avez-vous pas remarqué que votre face est blanche et la mienne noire?
C'est vrai, frère Martin.
Quand j'étais petit, frère Jean, j'en souffrais. Maintenant, je sais que les âmes ont toutes la même couleur. Bientôt, les malades n'attendent plus que Martin les visite. Ils vont vers lui. Les pères du couvent du Saint-Rosaire ne savent plus comment faire pour loger tant de monde. Mais frère Martin, ce n'est pas possible d'héberger tant de malades. Notre couvent n'est pas un hôpital, il faut les renvoyer. Mon père, les pauvres et les malades sont notre Seigneur Jésus-Christ. Devons-nous renvoyer Jésus? Une nuit, un novice se sent mal. Or, la porte du noviciat est fermée à clé de l'intérieur. Frère Martin entend l'appel du novice et entre dans la pièce sans clé. Le supérieur du couvent est venu constater lui-même le miracle. Quelquefois, il va aider et réconforter les esclaves noirs qui travaillent à peu de distance de la ville de Lima, dans un village très pauvre. Un jour, l'évêque de La Paz tombe mortellement malade. Il fait appeler Martin. Mais frère Martin n'ose pas entrer dans le palais d'un évêque. Il s'en sent indigne. Je prierai d'ici, devant le palais. L'évêque le supplie d'entrer. Frère Martin s'agenouille à son chevet. L'évêque le supplie alors de poser la main sur son cœur. Martin obéit impressionné et à l'instant l'évêque guérit. Après, le frère apprend que Dieu avait opéré un autre miracle par ses mains, qui s'enfuit effrayé. Frère Martin va mendier le pain de ses pauvres. Travaillons, travaillons, petit Pierre. Ce travail est béni parce que nous réparons le champ pour les arbres des pauvres. Dieu nous bénira et nous pourrons rassasier beaucoup de gens. Un jour, un maçon tombe d'un mur, et notre bon frère, l'arrêtant, lui donne l'ordre de rester ainsi jusqu'à ce que le Père supérieur lui donna la permission de le sauver, car il faut ajouter que les supérieurs, agacés par l'afflux continuel de curieux, lui donnèrent l'ordre de ne plus faire de miracles. Un jour, des petits voleurs viennent se réfugier au couvent désespérés. Ils sont poursuivis par les gendarmes. Ils promettent au bon père de ne plus recommencer. Les gendarmes fouillent le couvent. Nos deux voleurs sont devenus invisibles. Surtout, ils se sont convertis. Ce n'est pas fini, voilà une invasion de souris. Tout le couvent en est plein. Ordre est intimé à frère Martin de les chasser. Voyez-vous, amis les souris, nous allons faire un pacte. Je vous promets que je retire tous les pièges et tous les poisons du couvent, si vous retournez au jardin d'où vous venez. Ainsi fut fait. Martin de Porres porta à manger aux souris, et celles-ci restèrent discrètes.
Maintenant, frère Martin a vieilli. Il a 60 ans. Tous consacrés au service de Dieu et du prochain. Il porte un habit neuf, car il sait qu'il va devoir bientôt se présenter au Seigneur. Dans ses nuits de prière, Martin pleure. Jésus, vous avez tant souffert, avec votre couronne d'épines sur le front. Et moi, en 60 ans, j'ai fait si peu pour vous aider à la porter. Puis il tomba malade. C'était la fin. Toute la ville de Lima, la nouvelle de sa maladie, assiège le couvent. Bénissez-moi, frère Martin. Bénissez mon enfant. Restez avec nous. Du ciel, je vous aiderai, répond le saint. Et quand il rendit le dernier soupir, l'archevêque de Mexico murmura : un saint est mort. De lui, nous avons appris à vivre. Maintenant, nous apprenons de lui à mourir. Beaucoup d'années sont passées. Des grâces extraordinaires ont fleuri sur sa tombe et pourtant, il est resté longtemps oublié. Comme si après sa mort, il voulait rester dans un coin, le dernier de tous dans la maison de Dieu. En 1962, le pape Jean XXIII le sortit de l'ombre et le déclara saint. C'était un 6 mai et dans l'air se répandait le parfum des fleurs. De ce jour, le parfum suave de l'humilité et de la bonté de frère Martin se diffuse à travers le monde. Thank you.
Amen.